Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de marche et de mouvement. Alors, tu vas peut-être te dire, mais quel rapport avec la productivité, l'organisation, l'entrepreneuriat? Eh bien, reste avec moi parce que tu vas voir que la marche, ça peut être un outil assez incroyable pour t'aider à clarifier tes pensées, à résoudre des problèmes et à prendre de meilleures décisions. Et pour discuter de ce sujet, je ne suis pas toute seule puisque j'accueille Alexandra, qui est coach certifiée spécialisée dans la reconversion vers les métiers de l'accompagnement et du bien-être et fondatrice de Randoz. Et justement, elle utilise la marche comme un outil de coaching qui fait partie intégrante de ses accompagnements. Donc dans cet épisode, on parle de ce qui se passe dans notre cerveau quand on se met en mouvement, en quoi la marche peut nous aider à prendre de meilleures décisions, pourquoi on a toujours des bonnes idées sous la douche et comment faire de façon pratico-pratique pour mettre la marche au service de notre business. J'ai adoré discuter avec Alexandra sur ce sujet, j'ai appris plein de choses, j'espère que ça sera le cas pour toi aussi. Alors sans plus attendre, je te laisse avec notre échange. Bienvenue Alexandra sur le podcast Entrepreneur Productive. Trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Merci Mélina, enchantée également.
Comment est-ce que tu vas?
Écoute, je vais très bien, on me disait là juste avant, il fait super beau, donc ça ne peut qu'aller quand le soleil revient.
On est d'accord, c'est normal. Le printemps, vive le printemps.
Ouais, grave.
Déjà, pour commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, alors moi je suis Alexandra Ridoux, je suis coach spécialisée dans la reconversion et plus précisément dans la reconversion de ceux qui veulent se lancer dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être. Et ma petite particularité, on en parlera après, mais c'est que j'utilise la marche comme outil de coaching. Et sinon, je suis aussi maman de deux petits bouts de chou, un qui a un peu plus d'un an et l'autre qui va avoir 3 ans. Et j'habite sur Grenoble, là où c'est le paradis de la randonnée, donc là où je m'éclate.
C'est en lien, c'est logique par rapport à ce que tu me proposes du coup.
Exactement.
Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à ton parcours justement d'entrepreneur? Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé là?
Ouais.
J'imagine que tu ne t'es pas réveillé un matin en se disant tiens, je vais accompagner les gens à se reconvertir et avec la marche, etc.
Ouais, exactement. Alors, ça a été un processus assez long, on va dire. Pour un peu de contexte, je vais revenir limite au lycée. Au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, on m'a dit ne te ferme aucune porte, fais une école d'ingénieur. Alors, je dis, je ne savais pas ce que je voulais faire. En vrai, j'aurais adoré faire des études de psychologie, mais dans l'environnement où j'étais, on ne vit pas forcément de psychologie. Tu te fermes beaucoup de portes, donc prends plutôt un truc où tu ne te fermes vraiment aucune porte. Donc, je suis allée en ingénieur, en école d'ingénieur dans ces conditions-là, sachant que moi, j'ai toujours adoré tout ce qui était développement personnel. J'ai découvert, je crois, mon premier livre, Tony Robbins, « Pouvoir illimité ». J'étais trop fière de ce livre et j'ai baigné ensuite là-dedans. Mais bonne élève, je suis rentrée dans le moule, je suis rentrée dans le monde professionnel par la porte de la logistique. Je travaillais dans l'agroalimentaire et j'ai travaillé comme ça 8 ans en logistique avec juste une idée en tête, faut gravir les échelons au plus vite pour avoir un poste le plus haut placé. Et je m'étais dit, j'avais toujours été du coup attirée quand même par le coaching, quand tu as un poste haut placé et que tu as 40 ans, là tu peux devenir coach, là tu es légitime pour devenir coach en entreprise. Donc, c'était un peu ma ligne de mire et ce que je voulais viser, le fameux avoir 40 ans et pouvoir devenir coach. Donc, j'ai fait combien de postes? J'ai fait 5 postes en 8 ans. Donc, j'ai pas mal bougé. J'ai gravi les échelons, bref. Et j'ai eu 28 ans et je me suis dit, waouh, il reste encore 12 ans quand même avant de devenir coach. Je voyais encore les échelons à gravir, mais ça n'avait plus trop de motivation. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions. Cette course à gravir les échelons pour devenir coach, est-ce qu'elle a vraiment du sens? Est-ce que tu ne serais pas finalement une meilleure coach en devenant coach maintenant plutôt qu'à 40 ans, parce qu'au moins à 40 ans, tu aurais 10 ans d'expérience de coaching. Ça, plus le fait que du coup, donc j'étais dans l'agroalimentaire, je veux dire le nom de la société, hein, c'était chez PepsiCo, c'est quoi? C'est Pepsi, c'est les Cheez Lays. Bref, c'est un peu ce qu'on appelle les produits plaisir. Et mon rôle au quotidien, c'était quoi? C'était d'éviter des ruptures sur ces produits-là. Et comme je suis une grosse bosseuse, je mettais énormément d'énergie pour éviter des ruptures. Mais au fond de moi, tous les jours, je me disais, quand même, ton rôle, c'est d'éviter des ruptures de chips et de soda. On a vu mieux comme mission de vie, surtout toi qui veux faire de l'accompagnement. Et donc, tout ça, petit à petit, ça a fait grossir la boule. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, vas-y. Je me suis pas lancée tout de suite, mais je me suis dit, au moins, forme-toi en parallèle de ton job et vois ce que ça donne. Et j'ai commencé à me former. Et une fois que j'ai mis le pied dedans, impossible de m'arrêter. Donc, très vite, je me suis lancée en parallèle de mon job. Puis, j'ai quitté mon job. Et c'est comme ça que je me suis lancée du coup dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais ça a toujours été un peu, c'est pas pour moi, toi t'as pas d'idée, tu sais pas dans quoi entreprendre, reste dans le CDI, gravir les échelons, etc. Et donc quand il y a eu le coaching qui est revenu, que j'ai découvert que j'aimais ça et qu'en plus c'était en entrepreneuriat, là je me suis dit, mais vas-y, fonce, t'as enfin trouvé ta mission et faut y aller. Donc voilà un peu pour mes débuts dans l'entrepreneuriat.
Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es lancée maintenant à plein temps?
Ouais, alors à plein temps, 2021. Donc, ça fait trois ans à temps plein, comme ma fille. Ça a été quand elle était née.
Je vois ça régulièrement quand même aussi dans les parcours entrepreneuriaux. Enfin, il y a un espèce de déclic aussi. Alors, je ne sais pas si c'était lié du tout par rapport à toi dans ton parcours. Le côté grossesse, changement un peu de vie, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de montrer un peu comme exemple aussi à tes enfants. Je ne sais pas si c'était lié toi aussi.
Alors, moi, ce n'était pas lié parce que j'ai eu du coup le déclic avant, en vrai. Mais beaucoup de personnes que j'accompagne ont eu le déclic. Et en général, d'ailleurs, c'est marrant, le déclic, je le remarque, c'est souvent le deuxième enfant. Le premier enfant, j'ai l'impression que ça fait le premier déclic, mais on n'ose pas trop y aller. Puis le deuxième, on se dit « Ouais, quand même, là, il y en a deux, faut montrer l'exemple. » J'ai une coachée qui me disait « Non, mais qu'est-ce que je veux dire à mon enfant s'il me voit me plaindre toute la journée de travailler ? Comment je vais le motiver, lui, à travailler pour lui dire « Vas-y, travaille, ça va être génial après la vie professionnelle.
» C'est clair. Mais c'est vrai qu'en même temps, on se rejoint quand même pas mal, en fait, en termes de parcours. J'ai aussi un diplôme d'ingénieur à la base. Et pareil, en vrai, si j'ai créé mon activité, c'est aussi parce que moi, j'étais sur un autre sujet qui était plutôt sur la finance d'entreprise, mais dans le même sens de... Enfin, ouais, d'espèce de manque de sens aussi de ce que tu fais, de est-ce que vraiment, là, j'ai un impact genre positif, là, sur Terre, là, à remplir mes tableaux Excel et à faire des PowerPoint avec des récaps de trucs que globalement, personne ne va lire ou pas. Bah, pas vraiment, en fait.
Ouais, cette quête de sens et d'impact, je pense qu'on se la pose de plus en plus. Et c'est une bonne chose, parce que la planète devrait être dans le bon sens.
Clairement. Et donc aujourd'hui, on va parler de marche. Ça, c'est un outil, apparemment, qui paraît si simple, hein, parce que bon, à peu près tout le monde marche à partir de un an et demi globalement. Toi, c'est quelque chose que tu as complètement intégré du coup, dans tes accompagnements, dans ton business. Pourquoi du coup la marche? Comment est-ce que ça t'est venu?
Alors, ça m'est venu quand je voulais me lancer dans le coaching, que j'ai vu que seulement 10% des coachs vivaient du coaching et qu'il fallait trouver un peu son petit truc, sa petite différenciation. Donc, je suis repartie de « Ok, moi, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime ?» Et du coup, il y avait le voyage et il y avait la randonnée. J'ai quasiment toujours adoré marcher. Je dis quasiment toujours parce que si mes parents m'écoutent, ils diront que quand j'étais une adolescente, on ne pouvait pas me faire marcher et que je faisais que de me plaindre. Mais une fois que j'ai passé le cap de l'adolescence, j'ai quand même découvert le plaisir de la marche. Et en plus de ça, quand j'ai repris, en fait, quand j'ai fait mon parcours de reconversion, toutes ces réflexions-là, à chaque fois, j'ai avancé sur mon projet professionnel quand j'étais en marche. Donc, à chaque fois, c'est quand j'étais en randonnée, pendant les vacances, ou même tout au début où j'ai lancé mon activité. Du coup, ma fille, elle est née, je me suis lancée officiellement, elle avait un mois. Mais le premier mois où j'ai fait énormément de balades poussettes, c'est là où j'ai eu le plus d'idées, où j'ai eu le plus de créativité, malgré la fatigue. C'est là où ça a fusé dans tous les sens. J'avais une vision vraiment claire. Donc, je me suis dit, OK, il y a un truc avec la marche. T'aimes ça, fais-en une différenciation. Mais j'avais pas encore vraiment, on va dire, l'explication scientifique de ce qui se passait ou quoi. J'en parlais autour de moi. Les gens disaient, ouais, moi aussi, c'est vrai que j'ai des bonnes idées quand je marche. Donc après, j'ai commencé à me renseigner. OK, il y a un truc scientifique, donc ingénieur de base, hein, on veut essayer de chercher les explications. Qu'est-ce qui explique que quand on marche, on y voit plus clair, on a des meilleures idées, on prend les meilleures décisions? Et du coup, ça t'intéresse que je te raconte un peu de neurosciences?
Ben oui, justement, j'allais dire, je vais rebondir directement là-dessus pour savoir, ben, du coup, c'est quoi les explications scientifiques?
Ouais, en fait, qu'est-ce qu'on démontre les neurosciences? Alors, en vrai, c'est pas la marche, c'est la mise en mouvement. Donc, ça peut être faire du vélo, ça peut être courir, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment cette notion de mise en mouvement. Quand tu es statique, d'un point de vue neurologique, les connexions qui vont se faire, la majorité vont aller directement vers ton amygdale. L'amygdale, c'est quoi? C'est la partie de ton cerveau qui est responsable de tes peurs. C'est celle qui est la partie un peu animale, qui est en mode survie, qui, tu lui proposes un choix, va dire danger, pas danger. Si je vois un danger, fuis. Et donc, quand tu es statique, tu actives directement cet accès à ton amygdale et donc cette gestion des peurs sur mode survie. Versus quand tu marches, ça a été démontré donc, par les neurosciences que tu désactives globalement la grande partie de cet accès vers l'amygdale. Et par contre, la partie qui chauffe le plus dans ton cerveau, c'est celle qui a accès au lobe préfrontal. Et le lobe préfrontal, c'est quoi? C'est la partie visionnaire et créative de ton cerveau. Donc en fait, ça veut dire quoi? Quand tu es en mouvement, tu vas beaucoup moins penser à tes peurs et tu vas beaucoup plus penser à c'est quoi la vision que je veux avoir. Et c'est ce qui fait que quand tu marches, tu refais le monde en général. Tu sais, tu es en mode dans tes rêves, ouais, tout est possible, et vas-y, on peut faire ci, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup moins accès à tes peurs, tu vas dans la partie visionnaire, ce qui te correspond vraiment, dans la partie créativité, tu trouves des solutions. Et dans le cadre d'une reconversion, donc moi, je suis surtout sur tout ce qui est reconversion, lancer son activité, des peurs, tu en as déjà plein à la base. Tu n'as pas besoin en plus de t'en rajouter en restant statique. Donc, tu vas essayer de te mettre en mouvement pour accéder du coup à ta partie visionnaire et vraiment prendre les meilleures décisions qui te correspondent. C'est comme ça que je me suis rendu compte que moi, j'ai construit tout mon projet professionnel, le lancement de mon activité, mon choix de reconversion, en fait, en marchant, parce que quand tu marches, en effet, tu n'as plus ces peurs-là. Et en général, d'ailleurs, quand tu rentres chez toi, tu t'assois, tu te poses devant ton PC, là, tu as tous les « ah oui, mais attends, mais si, mais ça », et tu as toutes les peurs un peu qui reviennent. Donc, c'est important d'avoir bien travaillé en amont ta vision pour être solide et utiliser ces peurs pour construire un plan d'action et les utiliser, du coup, ces peurs comme force, et pas partir de ces peurs et te bloquer et oublier ta vision.
Mmh. C'est hyper intéressant. J'adore tout ce qui est neurosciences et comment ça fonctionne dans le cerveau et tout ça. Les trucs hyper logiques et tout, côté ingénieur. et alors, du coup, là, ça m'interroge sur... OK, donc tu marches, tu as toutes ces idées, toutes ces choses qui te viennent, toutes ces envies, tout ça. De façon pratico-pratique, comment tu fais pour arriver à les retenir, à les stocker, à les mémoriser, pour justement, quand tu reviens en mode statique, parce qu'à un moment donné, il faut potentiellement se mettre devant son PC pour faire des trucs, même si c'est vachement chouette de marcher et de réfléchir à plein de choses, mais à un moment donné, il faut créer du contenu, créer des choses, créer des offres et tout ça, et ça se fait plutôt statiquement devant son PC. Comment tu fais, du coup, pour garder tout ça en mémoire?
Ouais, alors là, il y a plusieurs astuces que je donne à mes coachés. Celle qui te permet de t'arrêter le moins souvent possible. C'est tu te crées une conversation WhatsApp entre toi et toi-même, tu peux faire ça sur WhatsApp et tu fais des vocaux. Alors tu peux aussi faire des vocaux sur une note et ton téléphone il retranscrit ce que tu dis, mais soit tu fais des vocaux, soit tu parles et ça retranscrit par écrit sur des notes ou t'écris. Ça c'est la première chose, comme ça tu as juste besoin d'avoir ton téléphone. Sinon il y en a qui sont quand même plus papier. Dès que tu as une bonne idée, dès que tu as un truc, tu te poses deux secondes, tu écris tes notes sur ton papier et tu repars. Mais en effet, une erreur, c'est de se dire « Ok, j'y vais, je marche, j'ai plein d'idées et je ne les note pas. » Et parce que quand tu reviens chez toi, en effet, tes idées, elles sont parties. Et tu es là « Mince, j'ai une super bonne idée il y a une demi-heure et je l'ai oubliée. » Donc, toujours avoir de quoi noter. Et ça, quand tu marches, mais aussi de manière générale, je ne sais pas, tu vas prendre le bus, les bonnes idées, pourquoi elles viennent sous la douche? Dans la douche, tu es vachement en mouvement. Tu te sabotes, tu te frottes les cheveux, bref, en fait, tu es tout le temps en mouvement et c'est pour ça que tu as des bonnes idées sous la douche. C'est pas parce que c'est le pouvoir de la douche, c'est juste tu es en mouvement. Tu étais statique sur une chaise, tu allais te lever, tu allais prendre une douche, tu t'es mis en mouvement, ça te génère des bonnes idées. Donc pareil, sous la douche, c'est difficile d'avoir un papier et un crayon, mais quand tu sors de la douche, première chose que tu fais, tu chopes ton portable, tu chopes ce que tu veux et tu écris tes bonnes idées.
Ouais, c'est hyper intéressant là, que ce soit par rapport au mouvement. Tu vois, j'ai jamais pris conscience de ça. Pour moi, le fait de effectivement qu'on a des idées, on est beaucoup plus créatif. Bah, effectivement, quand on est sous la douche, quand on fait des pauses, quand on fait autre chose, etc. C'est enfin aussi lié au fait que tu fais pas appel aux mêmes parties de ton cerveau. Enfin voilà, t'as moins le cortex préfrontal justement qui est en plein à fond sur focus sur quelque chose. Et plus, on va dire, l'arrière-plan de ton cerveau qui est en mode à faire des liens, à ranger les idées, à faire des associations et qui font que ça fait émerger des choses. J'avais jamais pris conscience que la douche, ça pouvait être aussi lié au mouvement. Et du coup, en fait, plein d'activités en fait, qu'on fait en mode détente, repos, ça peut être aussi le lien avec le mouvement qui fait que ça fait émerger aussi des nouvelles idées.
Exactement. Encore une fois, moi, je prône la marche, mais c'est vraiment l'histoire de la mise en mouvement. Et un truc là que les neurosciences ont démontré récemment, qui m'intéresse aussi énormément parce que j'ai beaucoup de coachés qui sont dans des burn-out. Pourquoi aujourd'hui, on a des jobs qui sont pas trop fatigants. Les gens font des burn-out. Il y a 50 ans, quand les gens étaient à la mine, ils voyaient le jour 4 heures, je crois, par 6 mois. Tous les 6 mois, ils avaient 4 heures de où ils voyaient le jour tous les 6 mois. Dans la mine, un travail acharné, il n'y avait pas de burn-out. Mais en fait, c'est pourquoi ? Parce qu'ils étaient en mouvement, tout simplement. Ils avaient un travail ultra dur, mais ils étaient en mouvement. Versus aujourd'hui, on n'est plus en mouvement, on est stacké derrière un ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en mouvement ? On génère aussi de la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui va venir réguler ton stress. Aujourd'hui, tu es statique. T'as ton accès à ton amygdale qui est direct. Donc, t'as toutes les peurs, tout le stress qui est au top du top. Ça génère de la cortisol. Et en fait, t'as pas le mouvement pour venir mettre de la dopamine pour faire descendre ton taux de cortisol. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton taux de cortisol, il est ultra élevé. Il descend jamais. Burnout. Et du coup, t'as tout le dérèglement. Et l'erreur numéro une que font les gens quand ils sont en burnout en général, c'est je suis trop fatigué, faut que je me repose, faut que je m'allonge. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Je suis fatiguée, c'est de la fatigue psychique et pas physique. Il faut se mettre en mouvement, redonner un peu de dopamine, bien paramétrer aussi tes connexions neuronales vers ton lobe préfrontal qui est encore responsable de ta vision. Et comme ça, tu vas pouvoir repartir.
Et c'est vrai qu'en plus, il y a cette espèce de truc un peu, paradoxal où tu vas être un peu épuisé physiquement, mentalement, et donc du coup, tu vas avoir tendance à ne rien faire, même physiquement, à t'allonger, à rester dans ton coin, dans ton canapé, tout ça. Et du coup, ça favorise aussi le fait d'être statique, les ruminations mentales, les doutes, le manque de confiance, etc. Et d'ailleurs, enfin ça, c'est on le voit, et puis on peut partir d'un truc très très physique entre ingénieurs, loi d'inertie de Newton. Hein,
exactement.
C'est-à-dire que, et ça pour le coup, on peut le, enfin, même sans être en burn-out ou quoi que ce soit, on le voit très bien, c'est que le mouvement appelle le mouvement aussi, plus on a tendance, enfin, quand on initie un certain mouvement et que, voilà, on avance, on bouge, etc., on a envie de continuer, versus, plus on est statique, plus on reste dans notre canapé, et plus on a envie de rester dans notre canapé globalement.
Et personne n'a jamais été dans un état dépressif. En faisant une balade, tu vois. En général, ton état dépressif, elle est quoi? T'es tout seul chez toi, dimanche soir, dans ton lit. Là, tu fais ta petite dépression. Mais t'es rarement en dépression quand t'es en mouvement, quand t'es en train de faire du sport, quand t'es en train de marcher, etc. Parce que ton état d'esprit, neurologiquement, il est pas en mode j'ai peur, ça va pas, etc.
Mais c'est hyper intéressant et je pense que ça peut, ouais. Toutes les personnes qui se demandent justement quoi faire dans ces moments-là, enfin, sans forcément être dans des cas extrêmes de pathologie, de burn-out, de dépression, etc. Mais juste, tu vois, même sur quand t'as un petit coup de mou, tout ça, juste se dire, je me mets un petit peu en mouvement, je vais me balader dans le jardin, je vais marcher un petit peu, ou n'importe au final, parce que n'importe quel mouvement, même prendre sa douche apparemment.
Ouais, c'est ça. Prendre une douche, ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Et comme tu le dis, dans les entrepreneuriats, en plus, il y a tellement de hauts et bas. Il n'y a rien de pire de se dire oh, plein de doutes, je n'ai pas de clients, c'est l'horreur, je suis en train de rater mon mois, allez, je me mets devant l'ordinateur, j'essaie de me concentrer absolument à trouver des clients, j'en sais rien, les réseaux sociaux, etc. C'est la pire chose à faire. D'abord, tu vas prendre l'air, tu prends du recul, après, tu fais ton plan d'action ou tu restes statique.
Clairement. Et du coup, en pratique, par rapport à toi, ce que tu proposes, comment est-ce que ça marche? Des jeux de mots, ouais. On notera. Hein. Enfin, pour toi, ouais, donc du coup, c'est n'importe quel moment. Enfin, toi, par rapport à la pratique de la marche, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où? Est-ce que il faut être genre uniquement dans la nature? Comment est-ce que tu recommandes de faire ça dès qu'on en a besoin, tous les jours, de façon récurrente, pendant longtemps? Bref, ouais. Dis-moi un petit peu.
Alors déjà, j'ai pas de reco de fréquence ou autre. C'est un peu comme le sport et manger des fruits et légumes. Plus tu le fais, mieux c'est. Déjà, première chose à avoir en tête. Il n'y a pas forcément besoin de marcher en nature. Tu habites en plein centre-ville, tu peux faire des tours de pâté de maison, ça revient en même. Encore une fois, le principe, c'est le mouvement. Par contre, il y a un avantage supplémentaire quand même à être dans la nature, si jamais vous pouvez le faire un peu plus souvent. C'est quoi? C'est que ton regard, il n'est pas stoppé par un immeuble, il n'est pas stoppé par des choses. En général, il voit beaucoup plus loin. Et quand ton regard, il voit plus loin, ça envoie aussi des messages au niveau neurologique à ta vision qu'elle peut voir encore plus loin. En général, quand tu réfléchis, tu ne regardes pas ton objet qui est proche de toi, tu as tendance à regarder en l'air pour avoir la vision la plus lointaine et ça t'aide à réfléchir lointain, de voir loin. Donc ça, c'est la première chose. Être en pleine nature, ça va t'aider à voir plus loin et t'ouvrir plus l'esprit parce que tu n'es pas enfermé entre deux immeubles dans la rue. Mais par contre, ça marche quand même, les bienfaits de la marche, dans la rue. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça marche aussi sur un tapis de marche, en salle de sport. Tu es en mouvement, tu es sur ton tapis de marche, ça marche très bien. Donc, l'idée principale, c'est vraiment de marcher, même si c'est faire 6 fois le tour de ton pâté de maison. De toute façon, tu vas être concentré globalement dans tes pensées et pas forcément ce qui t'entoure. Ça, c'est la première chose. Après aussi, l'avantage de marcher en nature, c'est que tu n'as pas la fatigue sonore, qui quand même, souvent là où vous habitez en centre-ville, peut y avoir beaucoup de fatigue sonore. Et ton cerveau peut être tout le temps en alerte sur est-ce que je vais me faire écraser par une voiture, est-ce que je vais me prendre une trottinette électrique ou autre. Donc, ça permet de reposer un peu plus le cerveau en étant en pleine nature. Mais sinon, encore une fois, le principe, c'est de marcher. Ça peut être de faire le tour de ton salon. Si il pleut et qu'il ne fait pas beau, fais le tour de ton salon, va prendre une douche. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être utiles. Et la durée du temps, ça dépend de, on va dire, un peu la problématique que tu veux travailler aussi. Moi, j'invite souvent, si tu vas marcher dans une démarche de « j'ai un problème, je ne vais pas bien, je vais y voir plus clair », essayer de te dire « je m'accorde 20 minutes de marche ». 20 minutes et que je conseille en général de scinder du type tu fais un peu plus que 20 minutes, peut-être 25 minutes, tu fais 5-10 minutes où tu rebalayes un peu toute ta situation qui te pose problème avec un peu les 5 pourquoi. Pourquoi ça pose problème, pour essayer de trouver vraiment le problème source. 5 minutes, ok, à partir de ce problème-là, c'est quoi mon objectif que je veux atteindre, où est-ce que je veux y voir plus clair d'ici la fin de ma marche. 10 minutes, tu brainstormes, ok. Comment je fais pour atteindre mon objectif? J'en sais rien. Donc, je parle le vrai fond du problème. Je ne sais pas, je n'ai pas assez de clients. Mon objectif, avoir au moins 3 clients ce mois-ci. 10 minutes de brainstorming. Comment je fais pour toutes les solutions possibles pour avoir plus de clients ce mois-ci? Et après, 5 minutes à partir de ce brainstorming. OK, c'est quoi les 3 actions que je retiens? Quelle action je vais faire tout de suite en rentrant de ma marche pour garder cette dynamique? Et après, en général, je dis 2 autres actions dans les jours qui viennent et dans le mois qui vient pour vraiment être sûr d'atteindre mon objectif. Et avec ces 20-25 minutes de marche, ça permet vraiment de clarifier, sortir la tête du brouillard, éclair sur le plan d'action. Tu reviens chez toi et là, tu peux te mettre devant ton ordinateur et lancer la machine de guerre quoi, pour attaquer ton plan d'action.
Trop bien. Ça me donne trop envie d'aller marcher là, du coup. Je vais y aller juste après. Mais c'est hyper, hyper intéressant. Du coup, il faut partir quand même. Tu vas marcher en ayant une problématique en tête.
Alors, ça, c'est que si tu as une problématique en tête, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la marche que j'appelle la marche bilan, prise de recul. Donc, moi, je la fais tous les mois, tu peux la faire toutes les semaines, tu peux la faire tous les trimestres. Et j'ai une liste de questions que j'aime poser pendant cette prise de recul. Donc, en tant qu'entrepreneuse, mes prises de recul, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a super bien marché ce mois-ci et que je peux refaire le mois d'après? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux supprimer de mon business sans impact financier? Qu'est-ce que je ne fais pas parce que j'ai peur? Et me poser ces questions-là. Et en général, la 5e question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la satisfaction de mes clients. Et en fait, je pars du coup avec ces questions un peu prise de recul sur mon activité pour faire le plein de bonnes idées, créativité. Et je reviens et je me note. Bon, genre, je me note tout au fur et à mesure de ma marche. Et comme ça, je reviens sur mon plan d'action sur les différentes actions qui en sont ressorties.
Trop bien. Ça me donne plein d'idées. Parce que, enfin, moi, je suis une grande adepte de ce que j'appelle les cycles de revue. Effectivement, faire bilan de la période précédente et préparation de la période suivante, que ce soit au niveau hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc. Toute une trame avec des petits templates Notion, tout ça.
Comme on aime.
Mais du coup, je me dis que ça peut être hyper intéressant aussi à faire, à partir marcher en ayant ces questions en tête ou quitte à les regarder sur mon téléphone et du coup, à réfléchir tout en marchant là-dessus.
Ouais, honnêtement, t'as pas du tout les mêmes, je trouve, insights que quand t'es assis. Quand t'es assis, t'es très terre à terre, etc. Quand tu marches, dans le terme de créativité, tu vas trouver des idées de dingue pour trouver des nouveaux clients que t'aurais pas eu si t'étais resté derrière ton PC.
Ça donne envie de tester.
Tu testeras, tu me diras.
Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à une entrepreneur qui a envie de tester cette méthode, qui sait pas trop par où commencer, voilà.
Je débuterai par, OK, là, tout de suite, est-ce que j'ai un problème ou est-ce que j'ai besoin de prendre du recul pour un peu orienter ma marche? Est-ce que c'est une marche prise de recul où je me pose des questions sur mon activité pour prendre du recul ou est-ce que c'est une marche pour trouver des solutions à un problème? Une fois que j'ai ça, OK, quand est-ce que j'ai 20-25 minutes pour aller me balader et partir se balader, réfléchir, avoir une note sur son téléphone pour tout noter et profiter des bienfaits de la marche.
Et revenir après avec son plan d'action clair.
Voilà, exactement. Et revenir avec son plan d'action clair et repartir de plus belle.
Non, mais ça me donne trop envie. Hein. On va raccrocher là. Moi, je vais partir me balader. En plus, il fait super beau. Donc, ça me donne encore plus envie d'aller me balader. Hein, on va pas se mentir.
Tu m'envoies un message direct après.
Voilà.
Je sais que mes enfants, je vais les chercher, ils sont à 20-25 minutes à pied. Et c'est mon moment chaque jour, donc j'ai l'aller et le retour. Quand ils sont là, il y a une fois sur deux où ils sont dans la carriole et je peux pas réfléchir. Mais le retour ou l'aller où je suis toute seule, c'est le moment bilan de la journée, plan d'action, j'y vois plus clair et après je repars direct.
Mais c'est vrai qu'en même temps, tu vois, je me dis que j'ai un petit peu arrêté ça. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à Paris, étonnamment, où justement, je pense que c'était notamment avec les confinements. Enfin, effectivement, mon pâté de maison, je le connaissais par cœur. Il y avait un petit parc à côté de chez moi qui n'était pas très, très grand. On n'appelle pas ça un parc d'ailleurs, ça s'appelle un square, tu vois. Mais du coup, tous les midis, généralement, j'allais faire mon petit tour de mon petit pâté de maison et partir un petit quart d'heure. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, en fait, juste pour... Ouais, avoir des nouvelles idées ou juste pour réfléchir, poser certains trucs. Et du coup, ça me donne trop envie de recommencer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas remis ça, tu vois, dans mes habitudes. Ça me donne bien envie de retenter un petit peu. Surtout maintenant qu'il va commencer à refaire beau.
Et même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, partez rien que 5 minutes. Et en général, une fois que vous êtes lancé, vous allez partir. Allez, je refais 5 minutes de plus. Donc, mieux vaut un petit peu que rien du tout, quoi.
Oui, puis comme tu le dis, ça peut être effectivement le fait de se mettre en mouvement. Donc, ça peut être juste... moi, je vois des fois, même quand j'ai des trucs à réfléchir ou quoi, juste faire une petite pause, genre 5 minutes dans le jardin, quitte à tourner en rond dans le jardin parce que j'aime bien marcher, même si je fais le tour de la maison, sans forcément que ça prenne très, très longtemps. C'est vrai que ça fait du bien.
Oui, de temps en temps, c'est juste... j'en peux plus, je ne suis pas active. Je vais ranger la maison. Tu vois, je range le bazar et ça fait déjà du bien. C'est double action. La maison est propre et en plus, tu vois plus clair.
Après, il faut faire attention à ça parce que ça peut quand même être de la procrastination active des fois pour ne pas faire certaines tâches un peu inconfortables.
Ouais,
on va se dire, okay. Ah non, mais alors il faudrait quand même que je fasse plier le linge, nettoyer machin, ranger ça, truc. Ça peut être dangereux. Non,
mais là, j'y vais vraiment en tête de la problématique à résoudre pendant que je range, tu vois. Enfin, encore une fois, c'est l'intention que tu mets derrière.
Ouais, donc c'est vraiment ça aussi, d'y aller avec une intention en particulier, que ce soit prendre du recul ou avoir une problématique en tête. C'est-à-dire, je vais activement, on va dire, réfléchir là-dessus. Donc au final, même en prenant sa douche, on peut se dire, là aujourd'hui, je prends ma douche avec cette intention de réfléchir ou de prendre du recul sur une problématique en particulier.
J'ai tendance à prendre ma douche la journée parce qu'avec les enfants en bas âge, c'est compliqué le soir et le matin. Souvent, j'y vais quand juste avant de faire des posts sur les réseaux sociaux, je me dis, allez, va prendre une douche, tu repars avec tu sors de ta douche avec 3 idées de posts. Et une fois que je sors de ma douche, j'ai mes 3 idées de posts et après, je passe à l'écriture.
Moyen de rendre la douche encore plus productive. Excellent. Mais du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Petite question, signature de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies pu recevoir, que tu aies lu, soit un conseil, une astuce, n'importe quoi que toutes les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi?
Alors moi, je vois un truc qui me vient. Alors peut-être que tout le monde le connaît déjà, mais ça ne fait jamais le mal de le répéter. C'est le livre The One Thing. J'ai peut-être dû sûrement le lire, mais le concept, c'est quoi? C'est de se dire, OK, c'est quoi mon objectif prioritaire? Et chaque soir, je me pose mon action prioritaire de la journée du lendemain par rapport à cet objectif et donc l'action qui me rapproche le plus vite de cet objectif et de manière le plus efficace. Et comme ça, je suis sûre d'avancer toujours dans la bonne direction et de faire en priorité ce qui est vraiment important. Et moi, ça a vraiment tout changé, en tout cas dans mon activité, de fonctionner comme ça et pas de faire en fonction, je sais pas, souvent on se dit, absolument je crée, je sais pas moi, 3 posts sur les réseaux sociaux par semaine, il faut absolument que je le fasse demain matin, alors qu'en fait, on s'attrape des clients sur le moyen long terme. Mais là, court terme, est-ce que c'est vraiment l'action la plus efficace? Non, l'action la plus efficace, c'est peut-être d'envoyer un message à quelqu'un avec qui vous avez eu un appel il y a une semaine. Et comme la veille, j'aurais identifié que c'est cette action-là, je vais commencer par cette action-là. Et après, je fais ce qui est important, mais moins efficace, exemple, les réseaux sociaux ou autre.
Carrément. De toute façon, la priorisation en fonction du coup, priorisation des tâches en fonction de ses objectifs à moyen terme, qui eux-mêmes découlent de notre vision plutôt moins moyen-long terme, hyper important. Ça, je te rejoins à 100%. C'est marrant parce que autant la philosophie et le concept même du livre The One Thing, je trouve que c'est hyper intéressant, autant le livre en lui-même que j'ai lu et qui est une référence un peu dans le monde entrepreneurial et tout ça, moi, j'avais trouvé ça hyper décevant parce que globalement, je trouve que le livre, en fait, peut se résumer par le titre. Hein. Voilà, t'as lu le titre, t'as lu le livre. Voilà, il y a une idée clé qui, après, on va dire, reformulée à peu près 92 fois sur 350 pages.
C'est sûr, mais au moins, tu l'intègres bien, tu vois. Mais le pire livre dans ce genre-là, je ne sais pas si tu as lu le livre de Mel Robbins sur la méthode des 5 secondes.
Non, je ne l'ai pas lu.
Ok, et ben alors ce livre-là, par contre, pour moi, ça, c'est la plus grosse des arnaques. Parce que alors lui, si tu trouves que The One Thing, il répète 99 fois la même chose, lui, il le répète 20 000 fois, tu vois. C'est vraiment... J'ai lu le livre, j'ai fait « Waouh, c'est pas possible que ce soit un best-seller, c'est la plus grosse des arnaques.
» Bah, y a beaucoup de livres hein, sur, des livres business, entrepreneurial, productivité, etc., qui en gros prennent une idée clé, une idée phare, qui va ensuite être découlée sous 12 000 formes avec plein d'exemples, etc. Mais c'est vrai que ouais, The One Thing, ça m'impressionne toujours d'en entendre autant parler. Et je suis d'accord que l'idée derrière est hyper intéressante, mais c'est vrai que le livre en lui-même, moi, je sais que j'avais été assez déçue de. Ouais, ok. Enfin, en gros, j'aurais lu les 3 premières pages et je m'arrêtais là et c'est bon, j'avais gagné du temps, tu vois.
Ouais, ça m'a pas marqué parce que, au moins, enfin, déjà, c'est un livre qui s'est du coup très facilement parce qu'il répète beaucoup la même chose. Donc, je trouve que c'est assez agréable les livres comme ça où t'as pas besoin de réfléchir, c'est toujours la même chose. Tu dis, ouais, ça se lit vite. Il est pas très gros. Donc, ça m'a pas tant marqué que ça. À la fin, un peu, tu vois, je suis même pas allée jusqu'au bout. Mais en tout cas, les premiers chapitres, je trouvais que ça proposait bien les bases et que ça permettait de bien y voir clair sur des trucs évidents. Mais tu sais, ça fait des petits rappels. Mais ne lis surtout pas le livre La règle des 5 secondes. Pourtant, la règle, elle est bien. Hein,
Mais il n'y a pas besoin d'en faire un livre complet, quoi.
Voilà. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cette règle. La règle, c'est quoi le principe? C'est de compter 5, 4, 3, 2, 1, 0 avant de passer à l'action. Et du coup, ton cerveau, comme il se focalise sur le décompte, il ne se focalise pas sur j'ai pas envie de le faire, procrastination et tout ça. Donc, très bien. Mais alors, lui, vraiment, il y a le concept qui est écrit sur les 3 premières pages. Et après, c'est juste chacun raconte sa vie sur comment il a mis en place la règle des 5 secondes. Et ça, c'est à 90 pages comme ça, quoi. Donc, ouais.
Je note de ne pas me l'ajouter à ma liste de lecture, du coup.
Ouais.
Ok. Trop bien. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils, pour tous ces partages. Avant que je parte marcher, du coup.
Yes.
Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent découvrir un petit peu tes contenus, te contacter, dis-nous un petit peu plus, qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'elles peuvent te retrouver?
Ouais. Alors, moi, je propose un accompagnement phare qui est 4 mois pour réussir le lancement de ton activité et trouver tes premiers clients. Donc, il y a ce premier accompagnement et j'ai un deuxième accompagnement qui est 4 mois pour trouver ta voie, si jamais tu sais pas encore ce que tu veux faire. Et du coup, la différenciation de ces programmes et le point clé, c'est quoi? C'est des audios d'auto-coaching à écouter en marchant pour justement se débloquer les idées et prendre les meilleures décisions, avec en plus, bien évidemment, du coaching collectif, du coaching individuel et tout ça, et des journées immersion rando-coaching autour de Grenoble pour aller encore plus loin. Et pour me retrouver, LinkedIn, Alexandra Ridou, ou Instagram, Randos Coaching, mais tu mettras, je pense, les liens dans la description.
Dans la description. Trop bien. Ça doit être trop chouette, les journées de Rando Coaching.
Yes. Je t'attends sur Grenoble quand tu veux.
Le problème, c'est que c'est à Grenoble, par contre.
C'est ça. Mais on a des belles montagnes.
Mais écoute, merci beaucoup, Alexandra, pour tout ce que tu nous as partagé, pour tous tes conseils. J'espère que ça va donner envie à plein de monde d'aller marcher, prendre des meilleures décisions. Et puis, n'hésitez pas à venir voir un petit peu sur Instagram, sur LinkedIn, ce qu'elle propose. Si vous avez envie d'allier randonnée, marche et coaching pour développer votre business, créer votre entreprise, trouver votre voie. Tous les liens, du coup, seront dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, toi, et merci à toutes les personnes qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout.
Merci à toi, Milena, et à bientôt.
Bye, à bientôt.